franceinter.fr.
Bonjour Daniel Cohen.
Bonjour.
Directeur du département d'économie à l'École normale supérieure, vous allez nous aider à comprendre l'une des seules idées neuves de cette campagne présidentielle qui, je le disais, fait débat à droite et à gauche, surtout à gauche en ce moment, puisque le projet est porté par Benoît Hamon, Jean-Luc Benamias et Yannick Jadot, l'idée d'un revenu universel. Alors, on va d'abord, vous allez d'abord nous expliquer de quoi on parle. Universel, c'est-à-dire sans distinction d'âge, de statut, de revenu.
Voilà, c'était universel, c'est-à-dire donné à tout le monde. De la naissance à la mort.
Tout au long de la vie.
Tout au long de la vie, sans aucune considération de ce que vous faites par ailleurs. C'est ça qui est, je crois, le plus important dans cette notion d'universalité. Ça n'est pas conditionné à la recherche d'un emploi, ça n'est pas conditionné au fait que vous avez démontré que, je ne sais pas quoi, vos enfants vont à l'école. Non, vous avez le droit. Parce que vous existez, et non pas pour exister, c'est une formule d'Ignacio Ramonet, ancien directeur du Monde diplomatique, qui l'avait résumé comme ça, vous avez le droit à un revenu de base pour vous protéger des aléas de l'existence, parce que vous êtes dans une société qui, pour l'essentiel, est responsable, c'est la théorie, des aléas de l'existence que vous rencontrez, et donc on vous doit cela. Vous disiez c'est une idée neuve, en fait, c'est une idée qui remonte très loin dans le temps, un de ces grand défenseur, c'était Thomas Paine en 1795, et il avait cette idée, je trouve intéressante. Il disait la terre a été donnée de manière indivise à l'homme par Dieu, puis Rousseau, la propriété privée l'a morcelée et on en est exproprié. Eh bien, on a un droit d'héritage sur la terre, disait-il. Il n'y a pas de raison que les uns aient un héritage privatif et les autres pas. Ce revenu d'existence vient compenser en quelque sorte cette injustice.
Alors, pour préciser l'universalité et l'automaticité de ce revenu, ce serait aussi cumulable avec un salaire ou avec d'autres prestations, peu importe les revenus de la personne. Hein.
Voilà,
et individuel, ça... si on est dans un foyer jeune, dans un foyer aisé, on touche quand même.
Voilà, c'est là qu'il faut ensuite évidemment rentrer dans les détails, parce qu'il faut aussi atterrir fiscalement avec cette mesure. Mais oui, dans sa forme pure, quel que soit votre revenu par ailleurs, vous avez le droit à cette allocation de base, 700, 800, 1000 euros chez chacun. Et bien entendu, il faudra la payer par un impôt qui fait qu'au bout du compte, ça ne sera pas neutre pour tout le monde, puisque les uns paieront un impôt plus ou moins élevé à proportion de leur revenu par ailleurs.
Alors, toujours sur le plan philosophique, hein, pas sur le plan économique, quel est l'intérêt d'arroser tout le monde plutôt que de concentrer les aides sur ceux qui en ont le plus besoin? C'est ça au fond la question.
Alors,
de Daniel,
c'est plus vraiment, on est déjà dans la pratique, dans la question de savoir comment au fond on essaye d'être économe sur cette mesure. Si on n'avait pas la question budgétaire qui se posait, eh bien l'intérêt c'est en effet de considérer que toutes les personnes qui vivent dans un lieu donné, la société française, sont, comme je le disais avec Thomas Paine, les héritiers indivises de la richesse qui a été produite en France par les héritiers que nous sommes tous, qui a été produite par nos ancêtres, les pasteurs et les autres, et donc nous avons tous une part la même, parce qu'il n'y a pas de raison de distinguer l'un ou l'autre. Pour prendre un exemple, ce sera un peu plus concret, la politique familiale, aujourd'hui c'est des exonérations d'impôts qui sont données par le quotient familial, qui fait qu'en pratique, un riche touche plus qu'un pauvre en matière d'allocation familiale directe et indirecte, puisqu'il paye moins d'impôts à proportion du nombre de parts qu'il a, et bien là, chaque enfant aurait le droit à 300 euros, quel que soit le revenu des parents. Donc voilà pour les principes. Maintenant, effectivement, la question qui est derrière, si on fait ça, ça coûte très cher, puisqu'il faudrait multiplier, si c'était 700 euros par tête, 700 euros par les 66 millions de Françaises, ça irait très très loin.
500 milliards par an, un quart du PIB.
Voilà, entre 300 et 500 milliards de selon le curseur que l'on prend. Donc c'est beaucoup d'argent, et d'une certaine façon, on voit là ici se révéler un peu les malentendus qui sont derrière ce revenu, pour avoir une petite note critique ici. C'est que les gens de droite et les gens de gauche sont pour ou contre avec le même enthousiasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction de partage entre la droite et la gauche pour cette mesure. On a des gens de droite qui sont très favorables à cette mesure, des gens de gauche qui sont très favorables à cette mesure.
Peut-être pas pour les mêmes raisons.
Au sein de la gauche, on voit Montebourg et Hamon sont pour ou contre, alors qu'ils sont par ailleurs proches. Et en effet, ça n'est pas les mêmes raisons. Alors, quelle est la différence entre l'adhésion de droite et l'adhésion de gauche à cette mesure, pour prendre cet exemple? C'est que l'adhésion de droite, c'est une manière de dire, c'est pour pour solde de tout compte. Je vous donne 700 euros, ne venez plus me voir, c'est terminé, il n'y a plus raison d'avoir des allocations chômage, peut-être même pas de SMIC. C'est une manière de simplifier les dispositifs sociaux qui existent. Et Milton Friedman, qui était le grand patron de l'école de Chicago, c'est-à-dire le plus libéral qu'on puisse imaginer aux États-Unis, qui sont elles-mêmes une nation libérale, était en faveur de ce dispositif. Alors que je crois que pour les gens de gauche, c'est un dispositif qui s'ajoute aux autres. Donc si ça coûte trop cher, on voit bien qu'il y a un effet d'éviction à craindre. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense en effet qu'il faut atterrir vers une mesure qui soit universelle au sens qu'on a dit avant, c'est-à-dire que tout le monde y a droit, quoi qu'il fasse, qu'il décide de travailler ou pas, qu'il soit à la recherche d'un emploi ou pas. Mais je crois en effet, personnellement, qu'il faut essayer de le cibler, on va dire en dessous de 2000 euros, quelque chose de cette nature, pour être certain que Mme Bettencourt n'en bénéficie pas au même titre de quelqu'un qui est véritablement dans la nécessité.
Il y a un autre argument qui fait débat à gauche, Daniel Collen, on l'a entendu dans la bouche de Benoît Hamon, c'est l'idée que le revenu universel, ce serait une réponse à la raréfaction du travail liée à la révolution numérique, en gros, puisque il n'y aura pas suffisamment de travail pour tout le monde, on est dans une société qui se robotise, eh bien, il faut pouvoir assurer ce matelas, ce seuil pour tout le monde.
Alors, il est indiscutable que si ça revient maintenant, deux siècles et quelques après Thomas Paine, c'est parce qu'il y a de formidables incertitudes sur la transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'économie numérique est en train de remettre en question, en cause, des emplois en quantité considérable. On ne sait pas exactement les chiffrer, mais on sait que ça sera plusieurs millions. Donc, il y a une nouvelle anxiété par rapport à la question du travail. Et donc, par rapport à cette anxiété, être capable de dire aux gens, bien, vous avez un revenu d'existence et si les conditions qu'on vous propose ne sont pas satisfaisantes, vous avez, grâce à ce revenu, l'option de vous retirer de ce monde, au fond, qui ne veut pas de vous. Ça fait partie des arguments qui sont proposés. Mais derrière, en effet, cette question, parmi les opposants à cette mesure, il y a en effet deux groupes de gens, à la fois à droite et à gauche. Mmh. Les gens qui, à droite, disent, en fait, vous êtes en train de subventionner la paresse, c'est-à-dire que si on n'a plus envie de travailler, on pourra le faire. Donc, c'est pas bon du point de vue de ceux qui ont ce point de vue moral sur le travail. Et de l'autre côté, vous avez à gauche des gens qui sont contre, mais résolument contre cette mesure, parce qu'ils pensent qu'indirectement, vous êtes en train de subventionner la précarité. Puisque le patron sait que vous avez, par exemple, ces 700 euros, il pourra se permettre d'aller plus loin.
Je te paye moins puisque tu vas toucher le revenu
universel. Puisque tu vas
toucher
ce truc-là. Et moi, je pense profondément que ça n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que si une mesure de cette nature était mise en œuvre, je pense que ça renforcerait le pouvoir de négociation des gens. Je pense que ça pourrait revaloriser la valeur travail. Parce que justement, on ne pourra pas vous proposer n'importe quoi. On ne sera pas dans le chantage « tu fais ce travail de merde » ou « tu crèves de faim ». Non, parce que on dote les personnes, au fond, des moyens de dire non à un certain nombre d'emplois déqualifiés. Mais pour le dire très simplement, et c'est peut-être le plus important, cette question « morale », entre guillemets, « assistana » ou « précarité », c'est une question empirique. Est-ce que ça va plutôt inciter à revaloriser le travail ou est-ce qu'au contraire, ça va l'amener plus loin dans la précarité? Est-ce que ça va inciter à la paresse ou bien est-ce qu'au contraire, en dotant les gens au fond des moyens d'existence, on leur donne les ressources pour aller sur le marché du travail? C'est une question empirique et je crois que le plus intéressant, c'est qu'on comprend qu'il faut faire de l'expérimentation. La Finlande a fait une expérience très intéressante. Elle va donner à un certain nombre de chômeurs 500 euros et elle leur dit « ça vous accompagnera toute votre vie, quoi que vous fassiez ensuite. » Et on va voir si il bascule dans l'oisiveté ou si au contraire ça le donne les moyens d'être plus agressif. Le département de la Gironde en France, en partenariat avec la fondation Jean Jaurès, va faire une expérimentation grandeur nature en donnant à un ensemble très important de sa population un revenu d'existence sur le modèle finlandais non conditionnel et on va suivre les trajectoires de ces personnes et on aura la réponse à la question morale, prime à la précarité, prime à l'oisiveté, ou exactement le contraire, incitation à revaloriser le travail et au fond, les moyens donnés aux gens d'aller sur le marché du travail, qui est un peu comme traverser l'Atlantique à la nage en ce moment, c'est très dur. Donc il vaut mieux doter les gens des moyens de faire face à ces aléas que le marché du travail aujourd'hui leur offre.
Daniel Cohen, qui a commencé à donner son avis donc sur la mesure, on l'a entendu. Non, mais vous pouvez aussi évidemment le faire. Et puis on reviendra aussi sur l'idée alternative que vous avez soutenue, avancée, celle d'une fusion du RSA et de l'aide personnalité au logement et qui permettrait de commencer une mesure de revenu universel à coût moindre, évidemment, pour les finances de l'État. On y reviendra tout à l'heure, sans doute, avec les auditeurs de France Inter qui nous appellent au 01 45 24 7000. Il est 8h31.